France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, patron du parti La République En Marche. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour Nicolas Demorand.
Et partons de ce qui est une évolution désormais claire, semble-t-il, évolution du président de la République, volonté de casser l'image qui lui collait jusque-là à la peau, l'image d'un homme distant, condescendant, souvent polémique, lié à un certain nombre d'interventions, vidéo. Il y avait urgence, d'après vous, à faire ces retouches de style pour inverser la pente glissante de l'impopularité. Mea maxima culpa.
Moi, j'écoute, je vois vos commentaires depuis 24 heures, mais j'ai un peu de mémoire. J'ai le souvenir de la visite du président de la République au lendemain de ce terrible ouragan à Saint-Martin, et je n'ai pas l'impression que son comportement ait changé. J'ai le souvenir des mots qu'il disait devant le Parlement, c'était début juillet, lors de la réunion du Congrès à Versailles, où il disait qu'un président de la République ne pouvait pas tout. Il disait « je ne peux pas tout, je ne réussis pas tout ». Donc je pense qu'il n'y a pas d'inflexion sur cela.
Ni sur le fond, sur le fond non, mais sur la forme non plus.
Mais la forme, c'est quoi? C'est les objectifs, c'est la volonté de continuer à réformer, à réparer.
C'est une façon d'être, la forme. De parler.
Moi, je crois pas. Alors, je suis peut-être pas le meilleur observateur. Je connais Emmanuel Macron depuis longtemps. Je sais son empathie. Je sais son besoin d'entendre les gens, de les rencontrer, de les écouter. Vous savez, je vais prendre deux exemples. Il va très souvent à l'Élysée, au bureau où on reçoit les appels téléphoniques. Et il veut savoir ce qui remonte de la part des Français. Je fais la même chose au sein du mouvement La République En Marche. Et très régulièrement, toutes les semaines, je fais une remontée de tous les appels, tous les mails, pour comprendre et analyser cela. Et régulièrement, je n'en fais pas. On a besoin d'être en lien avec les Français, parce que nos fonctions peuvent nous séparer un peu. Mais en même temps, j'étais samedi matin sur un marché à Rennes, accompagné par de nombreux journalistes. Ça s'est très bien passé. Les journalistes étaient d'ailleurs surpris, parce que les gens qui venaient me voir, c'était pas pour m'enguirlander, c'était plutôt pour nous dire continuez, ne lâchez
rien.
Donc
votre message de ce matin, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il n'y a pas besoin de, il n'y a pas de changement, il n'y a pas une prise de conscience, il n'y a rien qui a changé là, ces derniers jours, ces dernières semaines, du côté du président de la République.
Je ne répondais pas à ce qu'il faut faire. Je répondais aux commentaires du comportement.
Mais lui-même l'a dit, il a pris pas mal la parole dans sa séquence étranger aux États-Unis et pas à l'étranger d'ailleurs, parce que Saint-Martin c'est en France, donc on fait très attention, mais en face dans les îles, il a pris beaucoup la parole en expliquant qu'il avait compris qu'il n'était pas parfait, qu'il avait entendu des choses. Donc nous on essaie de comprendre s'il y a un changement ou non, pas du tout, non, tout va bien, madame la marquise.
Ce que je vous dis, c'est que ce discours-là, il l'a tenu devant les Français, et peut-être avec moins d'écho. Il y a plus d'écho aujourd'hui parce qu'il y a une tension, je vais surtout pas nier la tension qui existe, vous la commentez et vous l'inventez pas, cette tension. Moi je l'entends.
Est-ce que vous la ressentez, vous, Christophe Castaner?
Ce que je vous disais sur un marché, encore, j'ai passé la journée de samedi en Bretagne, je la ressens pas forcément. Mais je suis un observateur aussi, je vous lis, je vous écoute, je regarde les sondages et je vois, même si ça n'est pas ma religion, qu'il y a aussi des messages à faire passer, de la pédagogie nécessaire, des mesures à accélérer, et c'est aussi ce que
nous faisons. Les Français n'ont pas compris ce que vous avez fait, c'est pour ça qu'il faut de la pédagogie. Peut-être qu'ils ont parfaitement compris et qu'ils ont décidé en conscience que ça leur plaisait pas. Pourquoi juste de la pédagogie?
Alors ça, c'est une affirmation de votre part.
Non,
ça
c'est une question. Il y avait un point d'interrogation.
Non, mais les Français ont compris que ça ne leur plaisait pas. Moi, ce que je note. Alors du coup, moi, ce que je note aussi, c'est la réalité du terrain, de ce que je vis sur le terrain, sur le fait qu'aujourd'hui, 24%, n'oublions pas, des Français ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. C'est ça la réalité politique d'une France qui était totalement fracturée. Aujourd'hui, en moyenne, 34% des Français disent se reconnaître dans la politique portée par le gouvernement.
Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est le même étiage.
Mais pourquoi voulez-vous que je réponde à la question « faut-il s'inquiéter ou pas ?» Faire de la politique, c'est s'inquiéter tout le temps. Je vous le dis du fond du cœur, c'est pas un engagement facile. Il faut entendre les signaux quand ils sont faibles, quand ils sont puissants. Et oui, il y a des tensions. Et notre responsabilité, c'est d'apaiser la société, c'est d'apporter des réponses. Et donc, quelquefois, c'est d'accélérer ce que je répondais à l'instant à Léa Salamé. Ce que nous avons fait sur les heures supplémentaires, nous l'inscrivons pour le budget de l'année prochaine, parce que c'était une mesure qui était prévue pour l'année suivante, pour 2020, et on a décidé d'accélérer et de mettre en œuvre la désocialisation des charges des heures supplémentaires dès 2019. Ce n'est qu'un exemple.
Mais c'est pour vous, ce qui s'est passé cet été, cette rentrée difficile, que même le Premier ministre a reconnu comme étant difficile, pour vous, c'est un problème de forme ou c'est un problème de fond? Les Français, quand les sondages baissent, c'est parce que ils sanctionnent une forme d'arrogance du président de la République, ou c'est votre politique qui est pointée pointées. C'est le modèle choisi, c'est les réformes choisies qui sont pointées, selon vous.
Ben, je pense que si c'était la méthode et si c'était le choix stratégique que nous avons fait, les Français n'auraient pas compris l'élection présidentielle. Alors l'élection présidentielle s'est faite sur des engagements précis du président de la République que nous tenons. Par exemple, la nécessité d'accélérer la production de richesses pour mieux la distribuer, plutôt que de distribuer de la richesse qu'on ne produit pas et qui s'entasse sous forme de dette qui sera payée un jour par d'autres. Donc sur cela, nous sommes dans notre calendrier, dans notre méthode, et nous allons continuer. Ensuite, il y a des questions d'équilibre, il y a des questions d'impatience, des questions de rapidité d'exécution. Ce sont des combats qu'il faut avec le président, le Premier ministre, mené à chaque instant. Ça ne va pas assez vite. Et les Français nous le disent, et ils ont raison. C'est aussi le sentiment que j'ai comme patron du mouvement politique La République En Marche. Et je vous assure que c'est aussi le sentiment du Premier ministre et du Président. Il nous faut maintenir la pression pour que la réparation du pays, notamment à travers les chiffres du chômage, se poursuive et s'accélère.
Alors justement, sur les chiffres du chômage, est-ce que vous avez fait beaucoup de cadeaux aux entreprises, encore 18 milliards de baisses de charges dans le prochain budget. Est-ce que vous trouvez que les chefs d'entreprise en font assez ?
Vous savez, moi ce que je sais, c'est que l'emploi se crée dans l'entreprise. C'est quelque chose de fondamental qu'on a un peu oublié. Certains pensaient que c'était avec des emplois aidés, par exemple, qu'on pouvait régler le problème du chômage. En réalité, ça n'était qu'un règlement électoral en période électorale. Donc je pense qu'il faut faire confiance dans les entreprises. Quand on baisse les charges des entreprises, on ne leur fait pas de cadeau. Je reprends votre mot. On fait en sorte que le travail en France coûte un prix comparable à celui qu'on connaît en Allemagne.
C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que vous leur dites c'est du donnant-donnant et maintenant, est-ce qu'il faut en faire plus ?
Ah mais bien sûr qu'il faut que les entreprises répondent. On fait des efforts pour baisser le prix du travail. Elles doivent privilégier d'abord l'investissement. Et donc, il y aura des mesures dans le budget de cette année qui favorisera cela. Vous savez, l'année prochaine, il y a la transformation du CECE, qui est une baisse de charges, en crédit direct plutôt qu'en crédit indirect. Ça veut dire que sur l'année prochaine, les entreprises vont toucher 20 milliards de dettes sur l'année précédente, mais 20 milliards nouveaux. Moi, je souhaite, on les enjoint à faire en sorte que ces 20 milliards soient investis dans l'entreprise. Mmh. Parce que derrière, c'est de l'emploi qui est créé.
Il y a un débat qui est ouvert sur la dégressivité des indemnités chômage pour les cadres et les hauts revenus. Que des cadres qui contribuent à la hauteur de leurs revenus à la solidarité, ce qui est le principe de base, et ne bénéficient peut-être plus dans les mêmes proportions des indemnités chômage, n'est-ce pas tout simplement injuste, Christophe Castaner.
J'entends votre question, donc du coup, je peux penser que l'impôt est injuste. Parce qu'il se trouve que les gens qui gagnent plus, payent plus. Et je pense que ça s'appelle la solidarité nationale. Et qu'on peut aussi, et je rebondis vraiment sur votre question, et je ne réponds pas à la question de la dégressivité, je pense qu'on peut considérer que ceux qui gagnent plus peuvent effectivement cotiser plus pour alimenter un système qui profite à l'ensemble de ceux qui, à un moment donné, sont au chômage. Mais c'est pas une question d'argent sur la question de la dégressivité.
C'est une question de justice que je vous pose.
Oui, mais je vous réponds en justice et je conteste votre analyse parce que je pense que la justice n'est pas de tous payer la même chose, c'est de payer plus quand on gagne plus, notamment pour assurer la solidarité nationale. Mais ensuite, je crois qu'aujourd'hui, on a un système qui pose un principe d'égalité. Tout le monde a les mêmes droits. Mais la réalité, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes droits. Que quelqu'un qui n'a pas de formation, par exemple, a beaucoup moins de chances de retourner sur le marché du travail. Que quelqu'un qui a une formation dans les métiers du numérique et qui est en banlieue parisienne ou à Paris a plus de chances de trouver un emploi. Donc je pense qu'il nous faudrait un système qui effectivement accompagne beaucoup plus encore, notamment par la formation, les plus fragiles et quelque part que nous accompagnons différemment, celles et ceux dont on sait que l'accès à l'emploi est plus facile.
Différemment, ça veut dire donc la dégressivité qui a été assumée par le Premier ministre.
Mais ça, je vous dis pas non sur ça, mais je pense qu'il faut pas tout réduire à une question de comptabilité. Je pense que le droit à la formation fondamentale, celui qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes chômeur, vous avez quand même 10 fois moins de chances d'avoir accès à la formation que si vous êtes dans une entreprise, dans une grande entreprise, et si vous êtes cadre supérieur. C'est cette injustice-là contre laquelle nous devons nous battre.
Laurent Berger de la CFDT a dit que c'était une ligne rouge. La dégressivité de l'assurance chômage, est-ce que vous êtes prêt à passer en force si ça bloquait ?
Non, attendez, la discussion, elle se fait chez les partenaires sociaux. Donc moi, je ne vais pas vous annoncer des arbitrages, alors même que la discussion n'a pas lieu. Moi, je fais confiance aux partenaires sociaux pour chercher le système le plus juste et le plus efficace.
Et si vous ne le trouvez pas, est-ce que vous passez en force ?
Je ne vous répondrai pas, tout
vous
simplement.
Vous êtes passé en force sur d'autres
principe,
choses.
Hein. Bien sûr, mais le principe de la confiance, c'est de laisser les partenaires sociaux travailler et pas leur dire ce qu'ils doivent faire.
Mmh. Est-ce que c'est aussi, de manière très prosaïque, une façon de casser l'image du président des riches en disant « je ne serai pas le président des chômeurs riches ».
Mais vous savez, peut-être que quand on a dédoublé les classes dans les quartiers les plus difficiles de France, on voulait casser cette image, mais l'image n'existait pas encore. Peut-être que quand on augmente le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, on veut casser cette image. La réponse est non. On veut faire en sorte que les plus fragiles soient mieux accompagnés.
Le torchon continue à brûler, Christophe Castaner, entre Paris et les élus locaux. Gérard Collomb, qui dit désormais tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et peut-être n'osent pas dire, a pointé le caractère arrogant du pouvoir parisien. C'était la semaine dernière dans la presse. Certains élus dénoncent une recentralisation. Le terme est fort. N'est-ce pas terriblement ancien monde, le jacobinisme ?
Ce qui est terriblement ancien monde, c'est quand l'appel de Marseille, porté par trois associations, par trois présidents d'associations, refuse que le Premier ministre vienne discuter avec eux au moment où il lance l'appel, mais invite le président du Sénat, Gérard Larcher, parce qu'au fond, ils sont dans une posture politique. Moi, ce que je sais, et j'ai été maire pendant pas mal d'années, ce que je sais, c'est que depuis 2010, les dotations aux collectivités ont systématiquement baissé. Depuis 2 ans, nous avons fait en sorte qu'elles soient légèrement augmentées. C'est la confiance dans les territoires. Par contre, quand il y a des politiques qui ne marchent pas, on peut continuer à dire, mais c'est pas grave, c'est les régions qui s'en occupent, je prends l'apprentissage, ou on peut dire non. L'enjeu de l'apprentissage, il est majeur dans ce pays. C'est pas normal qu'on ait 2 fois moins d'apprentis qu'en Allemagne, et donc on va mettre un coup de pouce, et l'État va s'en mêler. Partout où ça marche, il faut faire confiance au territoire, et plus encore, je suis partisan justement d'une approche différenciée territoire par territoire, c'est ce que nous avons proposé d'ailleurs dans la réforme de la Constitution qui est en discussion, et dont la discussion reprendra. Quand? Et partout où ça... Bon, je pense en début d'année, mais dans cette session, le Premier ministre l'a dit, dans cette session parlementaire. Et quand ça ne marche pas, l'État doit prendre sa responsabilité et qu'on arrête de s'opposer les uns aux autres.
Mais là, on ne parle pas de François Baroin ou de Xavier Bertrand qui a dit on est traité comme des ploucs de province par le gouvernement. Là, on parle des maires, des petits maires ruraux. Il y a eu une vague de démissions de maires depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ça n'avait pas commencé, pour être très juste, sous l'élection d'Emmanuel Macron. Ça avait commencé sous François Hollande. Mais elle augmente, cette vague de maires. Il y a quasiment 400 maires qui ont démissionné depuis l'élection en disant on n'y arrive plus, on n'a pas assez les moyens. La suppression de la taxe d'habitation, les emplois aidés, on n'y arrive plus.
Non, là, il y a la suppression de la taxe d'habitation pour ceux qui la payent, mais pas pour les collectivités locales. Elle est compensée à l'euro près, elle est même augmentée de 1,2%, alors que ça n'était pas le cas les années précédentes.
Pourquoi
sur l'augmentation.
Alors, pourquoi ce malaise alors?
Là, je nous invite à regarder les chiffres précisément, et Gérard Collomb a eu l'occasion de le préciser, il n'y a pas de vague de démissions nouvelles. Par contre, être maire est de plus en plus difficile. Les normes qui vous contraignent, des administrations qui sont pas assez à l'écoute. Vous savez, je connais bien la ruralité. Dans ma communauté de communes, j'avais des communes d'une centaine d'habitants. Dans ma circonscription, la plus petite commune, Saint-Martin-les-Seines, compte 14 habitants. C'est dur d'être maire, et donc il faut être accompagné. C'est ce que nous voulons faire, mais déjà aujourd'hui, on leur garantit que dès l'année prochaine, ils auront un budget en légère augmentation, alors qu'ils ont connu des baisses systématiques de la part de l'État.
L'invité de France Inter ce matin est Christophe Castaner, intervenait au Standard. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal, bonjour et bienvenue Pascal, nous vous écoutons.
Oui, bonjour messieurs. Oui, moi je voulais intervenir tout simplement par rapport au pouvoir d'achat. Je fais partie des classes moyennes et je me rends compte que mon salaire n'augmente pas. Nous sommes de plus en plus ponctionnés et on se demande pourquoi on travaille. Alors ce sont des impôts éventuellement indirects, hein, comme l'augmentation du gasoil. Alors même si c'est pas vous qui l'avez provoqué, mais pourquoi ne pas avoir baissé le prix de l'essence au prix du gasoil pour éviter de consommer, on va dire, un carburant qui pollue. Alors c'est un exemple, il y en a plein, hein, au niveau des taxes foncières, taxes d'habitation. Nous n'avons pas le droit à l'exonération de ces taxes-là et on a l'impression qu'en fait on ne travaille que pour payer. Quand vous dites que l'emploi se crée dans les entreprises, nous sommes tout à fait d'accord, mais le pouvoir d'achat, s'il ne reste pas au niveau des ménages, personne n'avance et le fonctionnement de l'État français n'avancera pas.
Merci Pascal pour cette question. Je donne la parole aussi à Fabien et les réponses de Christophe Castaner. Bonjour Fabien.
Bonjour, je m'étonnais quand même que les responsables politiques semblent autant ignorer la réalité des chômeurs, alors tant mieux s'ils ne l'ont jamais connue eux-mêmes, mais cette situation de grande précarité et de pression sociale, voire financière pour certains, souvent est stigmatisée. Certaines déclarations récentes au plus haut sommet de l'État font penser qu'il suffirait de traverser la rue pour trouver un travail, c'est vraiment pas le cas, et qu'on manquerait de faire des efforts pour trouver un emploi. Il y a aussi une injonction assez généralisée dans la bouche des responsables politiques comme de l'ensemble de la population sur la mobilité géographique. Il faudrait pouvoir changer de région carrément, voire la mobilité professionnelle. Il faudrait changer de voie si celle dans laquelle on s'est inscrit parfois depuis des décennies n'est pas avec assez de débouchés professionnels. Et aujourd'hui, il y a même un discours qui porterait à penser que les chômeurs devraient eux-mêmes supporter une part du déficit de l'UNEDIC dont ils ne sont absolument pas responsables en réduisant leurs futures indemnités. C'est quand même un discours assez scandaleux, assez stigmatisant.
Merci Fabien pour cette question. Christophe Castaner vous répond. Fabien pour commencer, Pascal ensuite sur le pouvoir d'achat des classes moyennes.
D'abord à Fabien, vous savez, les décideurs politiques sont des femmes et des hommes qui ont aussi leur propre vie. J'ai connu le chômage. Donc je sais aussi la difficulté, et j'étais diplômé, bac plus 5, et je sais aussi la difficulté d'accès à l'emploi. Personne ne la nie, ni ce gouvernement d'aujourd'hui, ni les précédents. Mais il faut apporter des réponses, il faut accepter les mobilités professionnelles, et là je ne suis pas d'accord avec Fabien, je pense qu'il faut nous offrir les moyens de formation tout au long de la vie, mais on n'est plus à une époque où on rentrait chez Michelin, où on habitait Michelin, et on passait toute sa carrière chez Michelin. Les choses ont changé aujourd'hui, et on a beau être nostalgique, il faut faire face à ces changements, mais il faut donner les moyens de
et
cette
quand,
mobilité.
Quand bien dit, je suis pas responsable des pertes de l'UNEDIC. Mais pourquoi est-ce à moi à les payer sur mes indemnités chômage éventuelles ?
Mais personne ne demande à Fabien de payer sur ses indemnités chômage.
S'il en perçoit moins.
Non, mais personne aujourd'hui ne va percevoir moins d'indemnités chômage. Donc on peut crier, anticiper, imaginer que le pire. Moi, je préfère rester plutôt positif. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Par contre, il y a un déficit des indemnités chômage. À un moment donné, il faut se poser la question. Mais pour un système simple, mais je ne voudrais pas être très long, c'est que plus vous avez de chômeurs, plus il faut... engager d'argent pour accompagner les chômeurs, et moins vous avez de recettes, parce qu'au fond, c'est seulement le travail qui finance la solidarité sur le chômage. C'est un modèle aussi qui doit nous interroger, et le déficit, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un le paye. Si c'est pas nous aujourd'hui, ce sont nos petits-enfants, nos enfants, ça doit nous interpeller. Sur la première question, celle de Pascal.
Le pouvoir d'achat des classes moyennes, c'était ça le thème.
D'abord, lui dire que il se situe dans les classes moyennes et c'est une perception très classique. Mais 80% des Français vont connaître une baisse de la taxe d'habitation. Donc je situe moi la classe moyenne, non pas dans les 20% qui vont avoir un maintien de taxe d'habitation, et à l'horizon de 2022, ils connaîtront aussi une baisse de taxe d'habitation. Mais je le rappelle, 80%. Et ensuite, il a évoqué l'augmentation du prix du gasoil. Il a eu la gentillesse de dire « ça n'est pas vous, c'est en partie nous ». Vous voyez, je rebondis et je l'assume. Parce qu'aujourd'hui, le gasoil tue 45 000 personnes par an. Et donc oui, il faut faire en sorte qu'on ait une convergence entre l'essence et le diesel et qu'on favorise aussi des véhicules propres qui consomment moins de gasoil. Vous savez, la fiscalité, elle sert aussi à changer les comportements. Et cette année, pour la première fois, il y a moins de ventes de véhicules diesel en France que de véhicules essence. Ça veut dire qu'on peut aussi faire changer les comportements quand ils tuent des gens.
Christophe Castaner, oui, on va y aller sur la PMA, a dit le Premier ministre la semaine dernière. Vous allez y aller, vous allez appliquer donc et assumer cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, appelle les catholiques à se mobiliser par la parole hier dans le Parisien. Comment éviter que le débat soit bloqué, soit hystérisé sur la question ?
Prendre le temps de l'échange, du dialogue, c'est ce qu'a proposé le Premier ministre, mais en même temps ne pas reculer sur quelque chose auquel on croit, sur quelque chose sur lequel le président de la République s'était engagé. Je sais les divergences de vues. J'étais à Rennes, je vous l'ai dit il y a quelques instants, à la fin de la réunion, il y a un monsieur qui m'a interpellé très 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 violemment avec ses tripes, et je n'étais pas d'accord avec lui sur la question de la PMA. Donc il faudra discuter, dialoguer, mais pas reculer. Parce que c'est un sujet qui, au fond, est un sujet d'égalité pour toutes les femmes. Et je pense qu'il est nécessaire de tenir bon sur ce sujet, de tenter de se convaincre, et si on ne se convainc pas, de se respecter.
Sur la congélation des ovocytes, il a été plus flou, en revanche, le Premier ministre. Et vous êtes pour autoriser la congélation des ovocytes. C'est un autre point qui a été rendu dans le rapport du comité consultatif d'éthique. Vous irez jusqu'au bout, vous le proposerez, La République En Marche fera entendre sa voix.
Je défendrai cette position, vu que c'est celle du mouvement politique auquel j'appartiens. Ça fera débat, et le gouvernement, puis les parlementaires, surtout, au terme de cette discussion, décideront. Mais c'est aussi mon rôle, comme responsable d'un mouvement politique, de lancer des discussions, des échanges, des réflexions. Mais c'est un sujet sur lequel je sais qu'il y a aussi des tensions fortes. Je pense que là encore, on est sur un sujet d'égalité. Tout ce qui contribue à l'égalité, notamment entre les femmes, est un combat qu'il nous faut mener chaque jour.
Question de Johanna sur l'application France Inter. Le président qui pose avec deux jeunes Guadeloupéens, dont un torse nu, qui fait un doigt d'honneur, comment se fait-il qu'il se retrouve dans ce type de situation? Cela décrédibilise, je trouve, la fonction. Fin de citation, Christophe Castaner.
Vous savez, il a été dans un immeuble, il était dans un quartier, un des plus difficiles de Saint-Martin, qui a été dévasté par l'ouragan, et il a rencontré des gens. Parmi ces gens, il y avait deux jeunes, d'ailleurs avec un parcours un peu limite, comme on dit.
L'un est braqueur.
Et il les a un peu enguirlandés en les invitant à prendre leurs responsabilités. Ensuite, ils font une photo, et il y a ce geste idiot, qu'évidemment je condamne. Mais quand je vois la polémique, franchement, je me dis que y compris Saint-Martin, nous méritons mieux que cela. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est de constater que l'État a mis 500 millions d'euros en un an pour reconstruire Saint-Martin et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui vivent dans des conditions scandaleuses. Ça me choque beaucoup plus que cette photo.
Michel est en ligne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour tout le monde.
On vous écoute.
Oui, une petite question à Monsieur Castaner. Moi, j'ai une TPE depuis 10 ans, donc on a réussi à se sortir de la crise, mais il nous est absolument impossible d'embaucher. parce que nous n'avons droit à rien en termes d'aide d'une part. D'autre part, lorsque on travaille des grandes sociétés, on est payé à 60, 90 ou parfois même 120 jours, ce qu'on ne peut pas reporter nous sur nos charges, etc., où on prend systématiquement 10%. Voilà, donc je sais que l'État, depuis 30 ans ou 40 ans, préfère subventionner Areva et ces belles sociétés dont on connaît les résultats. Donc j'aimerais savoir ce que pense faire l'État pour aider les TPE, qui sont aujourd'hui quand même, sans doute, la seule solution pour réellement créer de l'emploi, d'aider les gens à se développer par eux-mêmes.
Bien compris, bien reçu. Merci Michel. Christophe Castaner vous répond sur les TPE.
Vous voyez, le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, tout à l'heure, Léa Salamé m'interpelle sur les cadeaux aux entreprises. Et là, vous avez un chef d'entreprise qui dit « vous ne faites pas assez ».
Les cadeaux sont toujours pour les mêmes entreprises. Non, c'est ça ce qu'il dit. Ah, pas pour les toutes petites. C'est le cœur de sa question.
Alors, sauf que la baisse des charges, la baisse de l'impôt sur la société, il vaut pour toutes les entreprises.
Voilà la réponse.
Et 92% de nos entreprises sont des moins de 10 salariés. Mmh. Mais par contre, il dit « mais j'ai pas d'aide de l'État à l'embauche ». Mais c'est normal. On n'a pas vocation à aider à l'embauche dans une entreprise. Par contre, il faut qu'on lui facilite la vie. Et il soulève un vrai sujet, celui des délais de paiement. Des efforts ont été faits. Nous devons poursuivre encore sur ce sujet. Delphine Gény-Stéphan s'est prononcée il y a quelques jours sur cela. Et nous ferons des propositions dans les mois qui viennent pour contraindre effectivement les fournisseurs, les entreprises à être payés dans des délais raisonnables parce que c'est une grande fragilité. Mais je crois que, et je vais répondre très rapidement sur ce sujet, nos entreprises, elles ont besoin de stabilité. De stabilité fiscale. Et nous sommes engagés sur un trend de baisse des charges, de baisse de l'impôt sur la société et nous ne changerons pas. Et de stabilité aussi dans les normes qui leur sont appliquées. Et aujourd'hui, quand une norme est créée, deux nouvelles sont supprimées.
Ça va être la première sanction électorale depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Les européennes, c'est dans 8 mois.
Pourquoi sanction ? Vous êtes pessimiste.
Non, sanction, ça veut dire le verdict électoral, si vous préférez.
Rendez-vous, on va dire.
Le rendez-vous, si vous préférez. Les européennes, c'est dans 8 mois. Emmanuel Macron a dit ce week-end qu'il veut la coalition la plus large. Ça veut dire quoi, en clair ? J'ai du mal à comprendre.
Ah ben, c'est un discours qu'il a déjà tenu, que j'ai déjà tenu. C'est le fait qu'aujourd'hui, moi, j'appelle ceux qui veulent se battre pour l'Europe au dépassement politique. C'est vrai pour l'UDI, c'est vrai pour Agir. C'est vrai pour ceux qui se sont rassemblés il y a quelques jours autour d'Alain Juppé, des femmes et des hommes qui sont convaincus qu'il faut se battre pour l'Europe plutôt que de la critiquer sans cesse, pour la changer. Et donc c'est cette coalition-là d'Européens que nous appelons à être avec nous.
Et qu'est-ce qui vous répond Alain Juppé pour l'instant ?
Les discussions se poursuivent, elles se passent bien, mais aujourd'hui personne n'a pris d'engagement sur ce sujet. Mais nous échangeons très régulièrement avec Agir, avec l'UDI. Nous sommes des partenaires politiques, même s'ils ont des positions politiques qui sont différentes des nôtres.
Pour l'instant, vous n'avez toujours pas de tête de liste pour conduire cette liste, pour l'incarner, à moins que je me trompe.
Mais nous en avons plusieurs qui sont possibles, mais on l'a pas encore présenté.
Voilà.
Non, mais surtout, on l'a pas encore présenté. Je sais l'impatience des journalistes, bien naturel. Mais ça n'est pas notre calendrier. Donc nous tiendrons notre calendrier. Si. Nous travaillons aujourd'hui à la constitution d'une liste, non pas pour recycler des femmes et des hommes qui ont été battus dans d'autres élections, comme ça s'est toujours fait en France, mais pour faire en sorte de trouver les meilleurs spécialistes sur tous les sujets.
Si vous ne trouvez pas le bon candidat, Christophe Castaner, est-ce que vous êtes prêt à prendre vos responsabilités ?
Je me suis déjà exprimé sur ce sujet en disant que c'était mon rôle de chef de parti si c'était nécessaire. Mais la seule question qu'il faudra se poser, c'est quelle sera la meilleure tête de liste ? Non pas pour faire le meilleur score, même si ça reste un objectif, mais pour être celui ou celle qui pèsera le plus dans les institutions européennes. Le poids de la France est essentiel. Et quand on voit qu'on a quelquefois des parlementaires, le Front National avait gagné, entre guillemets, les élections européennes la dernière fois, est-ce que ça a changé quoi que ce soit ? La réponse est non. Donc moi, je travaille aujourd'hui à une coalition européenne, parce que gagner en France ne suffira pas, il faut gagner en Europe pour changer l'Europe.
Christophe Castaner, merci d'avoir été au micro d'Inter depuis 8h20. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et patron du parti La République en marche.